Alors, la deuxième fonction, je ne vous ai pas montré les articles parce qu'ils sont hyper longs et d'une technicité horrible, ça concerne les recettes et les dépenses. Vous le savez comme moi, voter des recettes, c'est la fonction créatrice du Parlement. Rappelez-vous, au Moyen-Âge, quand les seigneurs avaient besoin d'argent, souvent pour faire la guerre, eh bien, ils convoquaient quel est notable pour avoir leur agrément pour prélever un certain nombre de taxes ou d'impôts. Rappelez-vous, quand Louis XVI convoque les États généraux à Versailles en 1789, c'est parce que, comme disait M. Necker, la France souffre d'un déficit qui fait grand bruit dans toute l'Europe. La fonction de prélever les recettes est donc une fonction historiquement importante. Aujourd'hui, le Parlement européen n'a pas le droit de voter les recettes de l'Union européenne, et si le traité est adopté, il n'y a rien qui change, il n'aura pas le droit non plus. L'autre volet, ce sont les dépenses. C'est ce qu'on appelle le budget. Aujourd'hui, le Parlement européen a le droit de voter un certain nombre de budgets, mais pas le plus important, pas le budget de l'agriculture, qui, vous le savez comme moi, absorbe quasiment 80% du budget total de l'Union. Alors, si le traité est adopté, là, il y a un changement, et encore un changement positif, c'est que le Parlement pourra voter l'enveloppe totale. Voilà pour le pouvoir budgétaire du Parlement européen. La troisième fonction, c'est contrôler le pouvoir exécutif. Alors là, le pouvoir exécutif, vous le savez, c'est le couple commission-conseil des ministres. Vous avez vu tout à l'heure, il élit le président de la commission. Hein? Bon, ben, il y a tout un article qui nous explique comment ça se passe. C'est le 27, vous l'avez là complètement sous les yeux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, propose au Parlement un candidat à la présidence. Si le candidat est accepté, il devient le président de la Commission. S'il ne l'est pas, on renvoie la patate chaude aux chefs d'État et de gouvernement qui doivent trouver quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de nouveau ? Ça ne vous rappelle rien ? C'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier avec M. Barroso. C'est exactement ce qui s'est passé en 1999 avec M. Prodi. Donc, il n'y a rien de nouveau. Si, il y a la première ligne. En tenant compte des élections. Il faut tenir compte des élections. Et ça fait dire à certains que grâce à ça, le Parlement, la Commission européenne devient le gouvernement démocratique de l'Union. Là, je trouve qu'on va un peu vite en besogne. Parce que, réfléchissons un tout petit peu. Rappelez-vous, depuis 1957, les différents présidents de la Commission. C'était qui ? Ça a commencé par un chrétien démocrate, puis ce fut un social-démocrate, puis un chrétien démocrate, puis un social-démocrate, puis un chrétien démocrate, puis un social-démocrate, puis il y a eu un libéral, puis un chrétien démocrate. J'essaye de vous expliquer qu'on n'a jamais choisi le président de la Commission en dehors de personnalités qui avaient le soutien des groupes les plus nombreux du Parlement européen. Nous n'avons jamais vu un président de la Commission trotskiste, communiste, ouvert. Ceci n'innove pas. Ceci ne fait que confirmer l'usage. Monsieur Strauss-Kahn qui dit « Le gouvernement démocratique de l'Union » aurait raison si au lieu d'écrire tout ça, on avait écrit simplement « Le Parlement européen élit le président de la Commission ». Point. Parce qu'alors, il venait de nous à travers ceux que nous avons choisis. Ici, c'est quoi ? Le Parlement confirme le choix négocié entre les États. Tous les pouvoirs ne viennent pas du peuple, tous les pouvoirs résultent d'accords négociés entre États. C'est quand même assez simple, c'est assez sensiblement différent. On pourrait dire que c'est une démocratie par délégation fortement ajoutée. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, le président élu constitue son équipe. Et ça, c'est comment ça se passe ? C'est une négociation entre lui et les 25 gouvernements. Il demande à chacun, c'est qui votre candidat ou candidate pour faire quoi ? Une fois qu'il a réussi, ce qui est une négociation qui est absolument diplomatique, donc dans le secret. Une fois qu'il a constitué son équipe, il la présente au Parlement. Et là, il y a un vrai moment de contrôle. Parce que chaque candidat commissaire est soumis à ce qu'on appelle une audition. Il doit d'abord remettre son curriculum vitae. S'il a un casier judiciaire, il doit le communiquer. Et il doit surtout faire la preuve qu'il est compétent dans les matières pour lesquelles il va devenir commissaire. C'est un véritable examen de passage. Je vous prie de croire, j'ai assisté à peu près à toutes les auditions des actuels commissaires en septembre et en octobre de l'an passé. Ils sont véritablement mis sur le grill. Mais je viens de vous le dire, j'ai assisté l'année passée. Donc ce vrai moment de contrôle, ce n'est pas une nouveauté que nous apporte le traité. Ça existe déjà. Et c'était déjà comme ça avec la commission Prodi en 1999. Donc il n'y a rien de nouveau. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Parlement a la possibilité d'accepter ou de refuser en bloc la commission. Pas un par un en bloc. Ce qui limite son pouvoir de décision. Et puis c'est fini. Pour 5 ans. Je vous parle du contrôle politique. Je ne vous parle pas du contrôle sur les budgets. Je ne vous parle pas du travail législatif. Je vous parle du contrôle politique. Pour les 5 ans qui suivent, le Parlement européen, en matière de contrôle des politiques menées par la Commission, il n'a plus qu'un pouvoir d'avis. Je vais vous donner un exemple concret qui remonte à avril de l'an passé. C'était donc l'ancien Parlement. Il s'est trouvé, enfin pour moi qui suis très fort le dossier de l'eau, j'ai presque considéré que c'était un miracle. Parce que le Parlement adopte en avril de l'an passé un texte qui dit 3 choses. 1. L'eau appartient au patrimoine mondial de l'humanité. Superbe, non? 2. Tout être humain a droit à l'accès à l'eau potable. 3. Le Parlement européen déplore la politique de la Commission qui consiste à pousser à la privatisation de la distribution d'eau en Europe et dans le monde. En Europe, nous le savons tous, il faut faire plaisir à Suez, et dans le monde, vous ne le savez peut-être pas, mais nous, les gentils européens, à travers la personnalité du commissaire européen au commerce de la précédente Commission, nous avons demandé à 72 pays où la distribution d'eau est un service public de le privatiser. Donc le Parlement dit qu'il n'est pas d'accord. Et il le vote. Donc l'Assemblée qui est élue de nos suffrages vote un texte comme celui-là. Et si c'est un texte comme celui-là, ce n'est pas un message politique clair, alors moi je ne sais pas ce que c'est un message politique clair. Et ça n'a valeur que d'avis. La Commission peut le prendre et le mettre à la poubelle, c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Vous voyez que sur le contrôle des politiques, le pouvoir du Parlement est quasi nul. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce que vous avez peut-être en mémoire le fait que le Parlement est à l'origine de la chute de la commission présidée par M. Jacques Santer. En fait, il y a 2 types de contrôle. Excusez-moi, c'est un peu de la technique juridique, mais il y a un contrôle de contenu et un contrôle de conformité. Le contenu, c'est les politiques. Là, je viens de vous expliquer avec l'eau. La conformité, c'est le respect des traités. Quand la commission viole les traités, le Parlement est fondé à la mettre en minorité. Il y avait eu des intélicatesses commises par quelques commissaires sous la commission Santer et le Parlement avait agi. Mais il ne faut pas confondre le contrôle de contenu avec le contrôle de conformité. Le contenu des politiques, le Parlement ne peut donner que des avis. Voilà pour Parlement-Commission. Parlement-Conseil des ministres maintenant. Et là, c'est peut-être le plus grave. Parce que, est-ce que vous avez déjà réfléchi? Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est la doctrine, et c'est le texte, la Commission propose, le Conseil décide. Mais le Conseil décide que quand ils sont ensemble, comme collège, comme on dit. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient les 25 ministres de l'agriculture, de l'économie, du commerce, il faut qu'ils soient ensemble. S'il en manque un, il y a un problème, sauf s'il s'est fait remplacer par quelqu'un d'autre. Ou sauf s'il a envoyé une lettre disant « c'est le ministre, hollandais qui va décider à ma place parce que je suis souffrant » ou un truc comme ça. Il faut qu'ils soient ensemble. Quand moi, dans les couloirs de la conférence ministérielle de l'OMC à Cancun, je croisais M. François Loos, vous savez qui c'est? On ne dirait pas. C'est le ministre français du commerce. Quand je croisais M. François Loos, je croisais le ministre français du commerce. Quand ils rejoignaient, à l'époque on était à 15, ses 14 autres collègues, dans une pièce, puisqu'ils étaient là-bas, tous, alors, il n'était plus le ministre français du commerce. Il était un membre du Conseil des ministres européens du commerce et ensemble, ils pouvaient prendre des décisions pour toute l'Europe. Avez-vous déjà réfléchi qu'il n'y a aucun endroit où nous, ou bien ceux que nous avons élus, nous pouvons dire au Conseil des ministres, on est d'accord, on n'est pas d'accord? Il n'y a aucun endroit où on peut le questionner. Vous pouvez demander à votre député préféré d'interpeller le ministre français à l'Assemblée nationale à Paris. Il va vous répondre pour le gouvernement de la France. Le Belge pour le gouvernement de la Belgique, l'Allemand pour le gouvernement de l'Allemagne, etc., etc. Mais il n'y a pas un endroit, à Strasbourg, on ne peut pas questionner le Conseil des ministres. Prenons un exemple très concret. Qu'est-ce qui se passe en France quand on forme un nouveau gouvernement ? On l'a vécu avec Raffarin, on l'a vécu avec Jospin et avec tous les premiers ministres qui se sont succédés. Il vient à la tribune de l'Assemblée nationale, il présente son programme et qu'est-ce qui se passe après ? Il y a un vote. Une majorité le soutient, une minorité s'y oppose. Au niveau européen, c'est impossible. C'est impossible. Vous le savez comme moi, l'Union européenne est présidée tous les 6 mois par un État. Pour le moment, c'est le Luxembourg. Quand M. Juncker, le Premier ministre luxembourgeois, est devenu donc le président de l'Europe pour 6 mois, au mois de janvier dernier, il est allé à Strasbourg. Il a fait un discours. Il a expliqué ce que, pendant ces 6 mois, son gouvernement allait essayer de faire pour faire avancer tel ou tel dossier. Et quand il a eu terminé, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a applaudi, point, poliment. Mais on n'a pas pu voter. On n'a pas pu dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que le traité va changer par rapport à ça ? Simplement qu'au lieu d'avoir un président pour 6 mois, on va en avoir un pour 2 ans et demi, qui ne sera pas donc choisi parmi un premier ministre d'un gouvernement en place, qui sera une personnalité autonome, mais c'est tout. En termes de contrôle, l'organe, par essence, de la décision politique n'est pas sous contrôle. C'est ce qu'on appelait, quand j'étais sur les bancs de la fac, le déficit démocratique européen. Quelques dizaines d'années plus tard, il n'a pas changé. Alors, certains vous diront, oui, mais il y a une grande nouveauté. Ça s'appelle l'initiative citoyenne. On va voir ce qu'on va voir. Hein, vous avez peut-être lu dans le journal Le Monde, l'an passé, au mois d'octobre, je ne sais plus, un article signé Daniel Cohn-Bendit et Alain Lipietz, et puis plus récemment, un article signé Noël Mamère. Toutes trois disent la même chose. Grâce à l'initiative citoyenne, tout ce qui ne se trouve pas dans la Constitution, que ce soit en ce qui concerne la démocratie, que ce soit en ce qui concerne le social, que ce soit en ce qui concerne l'environnemental, on pourra le mettre. Il suffira de recueillir 1 million de signatures pour obliger la Commission à faire des lois dans ce domaine-là et même pour changer la Constitution. Alors voilà ce que nous dit le texte. C'est vrai, des citoyennes et des citoyens au nombre 1 million de plusieurs pays peuvent inviter la Commission à soumettre une proposition. Mais lisez bien la dernière ligne. C'est aux fins de l'application de la Constitution. Et puis c'est soumettre à la Commission. Si la proposition ne concerne pas la Constitution, mais consiste par exemple à proposer qu'un million de personnes diraient « nous voulons une nouvelle loi », la Commission, elle en fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée, c'est soumis à la Commission, qui garde un pouvoir d'appréciation. Moi, j'ai été questionné lors d'une soirée comme celle-ci, au moment du débat, par quelqu'un qui disait « Voilà, on vient de créer une nouvelle association et on va collecter 1 million de signatures pour inscrire dans la Constitution ce dont je vous parlais tout à l'heure, la citoyenneté de résidence. » Et le monsieur me demande « Est-ce que la Commission va accepter notre 1 million de signatures ?» J'étais obligé de lui dire non, parce que vous ne voulez pas appliquer la Constitution, vous voulez la modifier. C'est quoi ça ? C'est le droit de pétition, c'est tout. Ah, il faut 1 million de signatures. Et vous connaissez, vous avez sûrement tous signé des pétitions, moi aussi, et j'en signerai encore, mais on connaît quand même l'efficacité d'une pétition. Hein ? Au passage, je vous signale que nous avons déjà le droit de pétition à adresser au Parlement européen, sans qu'il y ait un minimum de signatures requis. Ici, on a le droit de pétition à l'égard de la Commission, à condition qu'il y en ait 1 million. C'est peut-être un petit progrès, mais ce n'est rien de plus que le droit de pétition. Alors voilà, j'ai repris ici ce qui me semble le plus important, c'est ce qu'on appelle le déficit démocratique européen, c'est que ni la Commission, ni le Conseil, l'un et l'autre comme collège, ne sont comptables de leurs choix politiques. Voilà. Alors je passe sur la neutralité de la Commission, parce que je viens de voir qu'il est déjà 10 heures, et je suppose que vous êtes comme moi, vous avez chaud. Mais ici, il y a encore 2 sujets que je ne peux pas ne pas aborder avant de passer au débat.